Jean dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Cette année 2020, ne l'oublions pas, est l'année de la bande dessinée en France. Ainsi en a décidé le ministère de la Culture. Et l'auteur qui en est devenu la figure de proue, sans avoir rien demandé, est aujourd'hui avec nous. D'abord, parce que c'est lui qui a reçu la reconnaissance de ses pairs, en recevant en janvier dernier le Grand Prix du Festival d'Angoulême, décerné par pas moins de 1800 auteurs. Ensuite, parce qu'il est devenu le premier auteur de bande dessinée à exposer à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Une consécration académique, donc, pour ce scénariste-dessinateur, qui est aussi un vrai auteur populaire. Un vrai auteur jeunesse. 2020 marque d'ailleurs également les 20 ans de son héros, le petit âne bleu Ariol, dont deux aventures, Ramono, ton tonton fait du bio, et Naphtali nous dit toutou, viennent de sortir chez Bayard. Emmanuel Guibert est avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Alors, j'invite Pétula et Ramono, bien sûr. Quoique, Pétula et Ramono, ils se détestent. Mais je peux pas faire mon anniversaire sans Ramono. Bisbille, je l'invite. Elle est collante, mais elle est gentille. Oh, si Bisbille se déguise en princesse pouliche, Ramono va se moquer d'elle et elle va pleurer. Oh, mais pourquoi c'est si dur d'inviter mes copains à mon anniversaire? Tiens, qui c'est qui sonne?
Ariol, viens voir, c'est pour toi.
C'est qui?
Une surprise!
C'est pas le chevalier cheval quand même!
Eh non, c'est pas le chevalier cheval, mon petit Ariol, c'est encore mieux, c'est Emmanuel Guibert. Bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour, remarquablement préparé tout ça, merci.
Merci à vous surtout d'être avec nous et merci d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à la fête d'anniversaire d'Ariol. C'est vraiment trop coucou là, de vous avoir avec nous. Vous êtes fier du petit?
Ah, le petit! Qu'est-ce qui nous a apporté comme joie, le petit? On l'a créé donc il y a 20 ans à la demande de notre éditeur, Bayard Presse et Bayard Édition. Mais c'est la presse qui nous a contactés d'abord parce qu'il y avait une sorte de case à remplir dans un magazine qui se créait. Et j'ai donc gambergé. Et ce petit personnage est venu assez rapidement parce que j'y ai vu évidemment le prétexte pour pouvoir raconter mes souvenirs d'enfance. Et donc avec lui sont venus les élèves de la classe, les parents, les grands-parents, les commerçants du quartier,
l'enseignant. Un univers qui tout de suite a grandi. Il a beaucoup changé en 20 ans, ce personnage d'Ariol.
Pas tant que ça, pour la raison qu'en fait, depuis 20 ans, je raconte une seule et même année de sa vie.
Il est en CM1.
Il est en CM1. C'est un des principes directeurs que je m'étais donné au départ. On sait que les contraintes font écrire et donnent des idées. Et donc, je me suis dit, voilà, si un auteur qui s'appelle James Joyce a pu consacrer des milliers de pages à un de ses personnages qui vivait une journée de sa vie, avec un an, nécessairement, j'en aurais beaucoup sous le pied.
Donc, il n'a pas vieilli, ni dans ses histoires, ni dans son quotidien, ni dans son aspect physique sous les traits de Marc Boutavant.
Il vieillit un peu dans la mesure où, pendant cette année-là, il passe de 9 à 10 ans. Mais comme je me permets de jongler avec le temps, c'est un des bonheurs qu'on n'a pas dans l'existence, mais qu'on a quand on est auteur de bande dessinée. De temps en temps, je rétrograde et je vais avant ces 10 ans, et de temps en temps, je vais après, puisque je suis en train en fait de remplir la chronologie de cette année en allant parfois avant, en arrière, parfois en avant.
Pourquoi Ariol s'appelle-t-il Ariol?
Alors, il y a une petite histoire derrière ça. Il devait pas porter ce nom à l'origine. Il devait porter le nom d'un chien que j'avais quand j'étais petit et que j'aimais beaucoup. Mais, mon éditeur m'a appelé quelques semaines avant la première parution d'Ariol en revue pour me dire, tu peux pas appeler ton personnage comme ça. Ce nom est archi déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Ça se fait pas.
Eh oui. Alors moi, l'Institut National de Propriété Industrielle, à ce moment-là, il m'en kikinait un peu, parce qu'évidemment, ce prénom était très sentimental pour moi, et j'aimais pas l'idée d'avoir en changé. Et d'ailleurs, j'aimais tellement pas ça que j'arrivais pas à trouver un prénom alternatif qui me plaise autant. Et en fait, c'est une délicieuse copine qui s'appelle Laila, qui m'a sauvé la vie. Il se trouve que Laila est d'origine kabyle d'Algérie, et l'ayant un jour au bout du fil, elle me dit « ça va ?» Je lui dis « d'habitude, toujours ça va ?» Mais ce jour-là, non, ça n'allait pas, parce que je cherchais le nom de ce personnage et que je le trouvais pas. Et elle m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que ton petit personnage ?» J'ai dit « c'est un âne ». Elle m'a dit « bah appelle-le Ariol, parce que Ariol, c'est âne en berbère ». Et j'ai trouvé qu'Ariol, ça sonnait très bien. D'abord, ça me rappelait le Collar Gold de mon enfance.
Oui.
Vous avez...
Évidemment, le petit ours.
Vous grisonnez un peu comme moi, donc
oui,
peut-être
oui,
que vous
oui,
vous souvenez
oui.
aussi de Collar Gold.
Donc, l'ours qui chante enfin en sol.
L'ours qui chante enfin en sol, et parfois même en fa sol, en si bémol. Donc, je me suis dit, voilà, Ariol, ça sonne bien. Et depuis, vous savez, une fois qu'un enfant habite son prénom, il est plus question d'en changer. Parfois, quand on entend des copains nous téléphoner en nous disant qu'ils vont appeler leur enfant de tel ou tel prénom, avant coup, on se dit, oh là là, le pauvre. Et puis après coup, une fois qu'il habite le rôle, il n'y a plus de problème.
Alors, son héros, on l'a compris, c'est le chevalier cheval. C'était Collar Gold, votre chevalier cheval à vous, Emmanuel Guibert?
Entre beaucoup d'autres, moi j'ai eu évidemment une enfance habitée par l'amour délirant que je portais à quelques personnages de feuilletons télévisés, mais je dois dire surtout aux héros de bande dessinée. Oui. La raison pour laquelle je fais de la bande dessinée, c'est tout simplement parce que tel Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et que l'excitation que ça a créé en moi, la passion, n'ayons pas peur des mots, et puis le magistère que ça a exercé aussi sur moi, tout ce que j'ai appris grâce à la bande dessinée, a fait que cette vocation est née au moment où j'ai commencé à en lire, en fait. Je pense que, et parce que tout de suite, d'ailleurs, je me suis mis à les imiter, à copier mes bandes dessinées favorites, et donc j'ai l'impression d'avoir toujours exercé ce métier.
Mais alors, votre BD de chevet, quand vous étiez comme Ariol en CM1, c'était laquelle?
Alors, en CM1, CM2, j'ai découvert, ça n'est pas pour ne pas répondre à votre question, mais il se trouve que ça n'est pas une bande dessinée, bien que un des auteurs de ces livres soit évidemment un éminent scénariste de bande dessinée. Je suis en train de penser au petit Nicolas.
Ah, il y a Sempé et Goscinny.
Sempé et
Goscinny. Tout un univers, ça aussi.
Voilà.
Vous accompagnez. Il a un petit côté Ariol, le petit Nicolas, ou plutôt l'inverse, on va dire. Ariol a un petit côté petit Nicolas, ou quoi?
J'aimerais bien. Le fait est que la lecture du petit Nicolas à 9 ans m'a ouvert une porte qui s'est jamais refermée sur l'idée qu'en fait cette saga enfantine que vivaient les enfants que Goscinny et Sempé décrivent par leurs textes et leurs dessins, c'était la mienne. Donc l'idée qu'en fait on est en train de vivre une saga, on pourrait ne pas s'en aviser jusqu'à ce qu'on se rende compte que des poètes chantent cette saga. Et à partir de ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est de faire pareil. Donc il va de soi qu'Ariol à quelque chose du petit Nicolas. Le fait est que je craignais qu'il ait trop du petit Nicolas, raison pour laquelle c'est de la bande dessinée et pas du texte illustré, et raison aussi pour laquelle j'ai décidé que cette bande dessinée serait animalière, parce que ça me paraissait une occasion de plus de s'éloigner d'un modèle qui, par la passion qu'il a suscité en moi, risquait d'être trop envahissant.
Voilà, ça c'est la bande de copains qui souhaite un joyeux anniversaire à Ariol, qui est donc né il y a 20 ans, Emmanuel Guibert. Il était donc un peu en avance sur son temps, parce que bien avant la PMA ou la GPA, il avait donc deux papas, vous et Marc Boutavant. Ariol, c'est un petit âne, c'est un petit garçon comme les autres?
Oui, le premier volume s'appelle d'ailleurs Un petit âne comme vous et moi. Je pense qu'il ressemble à beaucoup de gens. Je pense d'ailleurs qu'on se ressemble tous plus ou moins.
Alors, il aime le foot, il aime regarder la télé, il aime regarder les aventures donc du chevalier cheval. Il est dans une atmosphère qui est quand même plutôt rassurante. Il a de la chance.
Il a de la chance, Ariol. Il est bien loti.
Ouais.
Il est né dans un milieu aimant. Il a un père et une mère qui s'entendent bien entre eux et qu'il l'aime beaucoup lui. Donc, c'est une famille globalement équilibrée et aimante. Et puis, bon, il est visiblement, c'est un enfant qui a une certaine aisance dans l'existence. Il n'a visiblement pas de problème matériel. Cela dit, quand on commence à entrer dans le détail des enfants qui côtoient, on voit que c'est pas le cas de tout le monde. Ça permet quand même de montrer toutes sortes d'aspects de l'existence. Mais il va de soi que je voulais qu'Ariol, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ariol, c'est moi. Donc, il a une enfance qui, grosso modo...
Oui, ça sent le vécu à chaque page, d'ailleurs. Est-ce que les dialogues que vous mettez, hein, Marc Boutavant et vous, dans les phylactères de vos personnages, sont issus vraiment de situations réelles que vous avez vécues, vous, que des petits garçons ou des petites filles de votre entourage vivent ou ont vécu?
Oui, alors, le langage lui-même, il va de soi que ça, c'est la partie qui d'ailleurs m'intéresse le plus, bien sûr, en tant que scénariste. Et ça, c'est vraiment
une écriture. C'est vraiment une sorte de stylistique. Je cherche vraiment à faire en sorte que, c'est pour ça d'ailleurs que ça me prend toujours beaucoup de temps d'écrire un Ariel, parce que je cherche à faire en sorte que le langage parlé soit à la fois le plus naturel et le plus fleuri possible. Mais non, ce qui est vraiment issu de mon enfance, ou de l'enfance de ma fille, ou d'enfance, parce que j'ai pas évidemment mes yeux et mes oreilles dans ma poche comme tout bon scénariste qui est obligé de pêcher les idées de là où elles sont, c'est-à-dire partout autour de lui dans l'existence de tous les jours, je suis attentif à, disons, des idées, des anecdotes, des démarrages. Moi, j'ai toujours besoin d'un démarrage. À partir du moment où j'ai l'étincelle de départ, je me fais confiance pour avoir la suite.
Mais on est toujours dans des situations très concrètes, très quotidiennes. Ariel, il va pas vivre d'immenses aventures à l'autre bout du monde. Pas du tout. C'est pas du tout le sillon que vous avez choisi de creuser.
Non, pour vous donner un exemple, là, je me suis interrompu dans la rédaction d'un scénario pour venir vous voir, et c'est un scénario de classe verte. Donc l'aventure au bout du monde la plus colossale qu'il ait vécue à ce jour, ce sera peut-être bien la classe verte. Mais pour le reste, en effet, je cherche surtout ce qu'on appelait dans les maths modernes de mon enfance les PPCD, les plus petits communs dénominateurs.
Oula, c'est donc, pas que des bons souvenirs, ça.
Non, mais le fait est que j'ai retenu ça, et j'aimais bien ce terme, même si je comprenais pas ce qu'il recouvrait. Le fait est que ce qu'il recouvre dans mon existence, c'est l'idée que quand on arrive à se raconter les menus faits de nos vies, on se rapproche. Parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, ces menus faits coïncident.
Alors, écrire pour un mensuel, puisque c'est donc dans un mensuel que Ariel est né, et écrire ensuite directement pour des albums, c'est le même exercice ?
Alors, pas exactement. Les albums qui sortent en règle générale une fois par an en librairie sont des albums qui sont des recueils, des histoires qui ont été préalablement écrites pour la revue J'aime lire. Donc là, on se contente de les coller à la queue leu-leu dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont parus. Mais de temps en temps, et c'est le cas donc d'un album qui paraît cette année, qui s'appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ramono, ton tonton fait du bio, de temps en temps, on fait du hors-piste et on sort des albums qui sont des histoires complètes, qui excèdent notre étiage habituel de 10 pages, et qui peuvent aller jusqu'à 70 pages d'un seul tenant. Et c'est pas exactement la même discipline. Il est évident que quand j'ai devant moi un espace qui s'ouvre de 70 ou 80 pages, que j'ai liberté d'arranger comme je le veux, je n'écris bien sûr pas exactement comme j'écris quand j'ai uniquement 10 pages, parce que 10 pages, ça passe assez vite. C'est un très très bon format. C'est un format qui permet d'avoir un petit démarrage, un petit développement, une petite fin. On a vraiment la possibilité de raconter pas mal de choses en 10 pages. Il n'en reste pas moins que, en quelques enjambées quand même, on arrive au bout. Alors de temps en temps, c'est agréable de se donner un format et un sujet qui permet de gambader un peu plus loin.
Oui, donc de bagnoder, dans les champs bio, hein, pour le coup, là, en l'occurrence, Emmanuel Guibert, parce que c'est un petit garçon de son temps. Il évolue, Ariel. C'est très à la mode, le bio.
Alors voilà, mais en même temps, ça date pas d'hier, donc Ariel est né il y a 20 ans, j'aurais déjà pu écrire cet épisode il y a 20 ans.
Exactement dans les mêmes conditions.
Oh, sans certainement.
Il est hors sol, c'est du bio hors sol en fait, votre Ariel.
Bon, là, le tonton de Ramono a une AMAP, alors voilà. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais enfin de temps en temps.
Ça n'existait pas il y a 20 ans.
Ça n'existait pas il y a 20 ans, alors voilà, ça a dû me venir.
Donc une AMAP, c'est une association, alors le sigle, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais vous allez m'aider.
On va dire ce que c'est, j'ai oublié aussi ce que recouvre le sigle, mais enfin ça consiste, pour des gens qui habite la campagne, à remplir une camionnette avec un certain nombre de denrées et puis à aller à la ville pour les vendre sous forme de paniers, on appelle ça des paniers. Donc je sais pas si vous êtes arrivé d'être inscrit à une AMAP, moi j'ai eu ça un moment, donc quelqu'un venait chez moi de temps en temps et on savait pas d'ailleurs ce qu'on aurait dans le panier parce que c'est saisonnier et ça fait partie de la surprise de la chose. Et ce tonton, il fait ça, il propose très gentiment à Ariel et Ramono qui habite le patelin qu'il visite ce jour-là, c'est-à-dire une petite ville qui s'appelle Écurie et qu'on imagine être elle est d'ailleurs dans le département des Yvelines.
Oui, comme c'est joli.
Voilà. Donc, il vient les voir et il leur propose très gentiment de les accompagner dans sa tournée. Et c'est le point de départ de l'histoire.
Alors, il y a eu le journal, il y a donc les albums, il y a eu la série animée à la télé. En ce moment, c'est sur Piwi et Canal Plus Family. La version télé, ce sont des albums adaptés au format ou bien vous écrivez des histoires originales pour l'écran?
Il m'est arrivé d'écrire une ou deux histoires uniquement pour l'écran, mais globalement, ce sont des adaptations, pas d'ailleurs écrites nécessairement par moi. J'ai la chance d'être entouré d'un pool de scénaristes très efficaces, et ils ont comme nutriment, si j'ose dire, les scénarios d'origine. Et à partir de ça, ils broguent. Parfois, faut les dilater un peu parce qu'un scénario qui dure 10 pages, donc globalement pourrait remplir l'équivalent de 5 ou 6 minutes de dessin animé. S'il doit en faire 13, il faut évidemment gonfler, dilater un peu tout ça, et il s'en charge.
Et donc vous les regardez de loin?
Je regarde de loin.
L'œil soupçonneux?
Non, je leur fiche une paix royale. Je leur fiche une paix royale. Moi, je suis très attentif, évidemment, au scénario que j'écris. Ils ont ce cahier des charges de se baser sur les scénarios existants. Donc, pour moi, ça sert de guide champ. Je sais que je suis, si j'ose dire, protégé par ça, parce que ils peuvent pas s'éloigner tant que ça de la structure complète de l'épisode. Mais pour le reste, dès lors que quelqu'un écrit, si on veut que cette personne écrive bien, il faut la placer dans des conditions de confiance absolue. Sinon, ça marche pas. Je sais ce que c'est ce que j'apprécie pour moi-même, et c'est ce que je laisse très volontiers à autrui.
Petula et la voix du chanteur là qu'on entend et celle de...
Alors je me rappelle plus de son prénom. C'est l'acteur qui joue le papa dans le dessin animé. On a fait un disque et si vous aviez fait entendre la version du disque, ça aurait été mon copain Frédéric Lemercier avec lequel je fais d'autres albums, dont un qui est sur cette table et qui s'appelle Le Photographe.
On va en parler dans un instant.
Qui a poussé la chansonnette. Il joue de la guitare sur ce morceau. On est accompagné par des musiciens émérites comme Fabien Quin ou Jean-Pierre Pilot, par exemple. Et on s'est retrouvé en studio pour enregistrer toutes ces musiques. Beaucoup amusé, je dois dire. Moi, on a tous eu 15 ans là sur l'affaire. Et ça a été l'occasion pour moi de lâcher les chevaux et les ânes sur un mode d'expression qui aurait pu être le mien. Je me suis tâté quand j'avais 18-19 ans en me disant est-ce que ce sera plutôt musique ou plutôt dessin,
ouais.
Et puis là,
vous avez gardé les deux fers au feu, hein.
Ouais, on perd rien pour attendre, voilà, que j'ai 50 berges largement aux cerises et plus, mais cette proposition m'est venue et du coup je me suis retrouvé en studio à enregistrer ces petites chansons et à bien m'amuser.
Bon, écrire pour la jeunesse, c'est vraiment l'un des piliers de votre carrière d'auteur, hein. C'est pas une poire pour la soif.
Non. Non, j'ai toujours considéré ça comme très, très important, cardinal. Je ferais pas volontiers ce métier si je pouvais pas la moitié de mon temps m'adresser aux enfants ou aux jeunes gens, disons. Et c'est surtout pas une espèce de je sais pas. C'est vrai qu'on nous le suggère régulièrement. On nous dit, est-ce que c'est pas une récréation de l'esprit? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous faites pour vous détendre? Non, c'est décidément une des choses les plus exigeantes et les plus difficiles à écrire. C'est d'ailleurs pour moi une école de l'écriture. Je pense que si on veut bien écrire, toutes écritures confondues, c'est pas mal de se frotter à l'écriture pour les enfants. Parce que on peut pas se permettre d'être fumeux, on peut pas se permettre de jargonner, on peut pas se permettre d'être à côté de la plaque. Et les enfants ne tolèrent pas qu'on soit à côté de la cible. Donc, et puis en même temps, je dis ça, mais les enfants ajoutent aussi à la lecture une valeur ajoutée considérable, qui est celle de la découverte. Les enfants sont toujours dans la découverte. Donc, je dois dire que c'est quelque chose dont je me passerai pas volontiers.
Et quand papa et maman ont appris que leur petit Emmanuel voulait faire de sa vie une carrière d'auteur de bande dessinée, ils ont réagi comment?
Ah, je sais pas s'ils nous écoutent, je les embrasse, mais je leur dois beaucoup dans la mesure où je ne me rappelle pas qu'ils se soient, à quelque moment que ce soit, opposés à cette volonté. Ils étaient pourtant l'un et l'autre éloignés de ces modes d'expression, mais ils ont senti très tôt, en fait, que je m'y épanouissais et je n'ai eu de leur part que du soutien et des applaudissements qui durent encore aujourd'hui. Et bon, il arrive qu'on se construise contre sa famille ou en dépit de sa famille, ça fait parfois d'ailleurs des gens remarquables de force et de puissance créative. Mais je pense que c'est pas plus mal au fond d'avoir l'accord des siens, parce que voilà, c'est tout simplement plus agréable.
Donc vous passez votre bac d'abord et ensuite vous entrez aux Arts Déco, hein. Vous n'y êtes pas resté très longtemps.
Non. Alors, le bac, évidemment, ça faisait partie de la négociation. Fallait l'avoir. Il n'était pas question d'autre chose. Mais ensuite, j'ai pensé faire, oui, des grandes écoles d'art. J'ai fait une année de préparation dans un atelier qui s'appelait Ourdé. Et ça a été, au fond, ma seule véritable année de formation artistique. Et puis, à l'issue de cette année-là, j'ai présenté des concours, dont celui des arts déco que j'ai eu. En particulier grâce à un merveilleux professeur auquel je fais allusion dans le dernier bouquin paru qui s'appelle Légende. Ce monsieur s'appelait Claude-Henri Roquet. Et c'est lui qui m'a interrogé en culture générale et on s'est entendu comme larrons en foire et donc j'ai eu ce concours des arts déco. Mais je me suis rendu compte assez vite que cette première année de tronc commun était une année où on n'était pas censé se précipiter dans une direction. Et moi, j'avais déjà envie très fort d'aller dans une direction qui était celle de la bande dessinée. Et puis, par ailleurs, j'ai commencé à travailler. On m'a proposé des contrats, etc. Donc, rapidement, je me suis détaché de l'enseignement en me disant « Il sera toujours temps d'apprendre ». Et c'est vrai. Je pense que tout au long de sa vie, si on veut apprendre des techniques, il est toujours temps de le faire.
Et aujourd'hui, vous exposez donc à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. On va en parler dans un instant. Entre-temps, il y a eu le cinéma aussi. J'ai vu que vous avez fait des storyboards pour Jean-Marie Poiret, c'est
ça ? Ah oui.
C'est une bonne école, ça, les storyboards ?
C'est une bonne école. Alors là, j'étais tout minot. Hein. J'avais 18 ans, 19 ans. Et quelques metteurs en scène, oui, qui s'appelaient en effet Jean-Marie Poiret, Arnaud Sélignac, etc. ont fait appel à moi. Et enfin, moi, personne ne me connaissait, mais il se trouvait que j'étais là. et j'ai vécu des aventures très, très marrantes. Bon, les films de Poiret n'engendraient pas la mélancolie.
Certes, non.
Il était lui-même rigolo. Donc
c'est celui qui a fait Les Visiteurs. Hein,
celui qui a fait Les Visiteurs, Le Père Noël est une ordure, enfin, toutes sortes de films. Et avec la bande du Splendide. Et je me rappelle être avec lui dans des bureaux. Il était en train de me mimer ses scènes. Il y avait un spécialiste des effets spéciaux qui était venu des États-Unis, qui était un monsieur qui, si mes souvenirs sont bons, s'appelait Isidoro Rapponi. Et c'était un italo-américain qui avait travaillé sur Star Wars. Et à l'époque, Star Wars n'était pas si vieux. Et on était déjà évidemment tout ébloui que ce monsieur veuille bien venir chez nous pour se pencher sur un film qui devait être un film du Splendide consacré à la préhistoire. Et donc, je revois Jean-Marie Poiret et Isidoro Rapponi à quatre pattes sur la moquette, l'un faisant le dinosaure et l'autre faisant un homme préhistorique censé le chevaucher, et moi prenant des croquis de tout ça pour que ce soit sur les plans du film. Donc ouais, l'activité storyboarder, elle est appréciée des auteurs de bande dessinée et les metteurs en scène apprécient les auteurs de bande dessinée parce qu'on est censé avoir déjà évidemment un savoir-faire en ce qui concerne les perspectives, les costumes, etc. Donc j'ai commencé comme ça, ouais.
Alors vous vous rapprochez un peu plus tard d'une revue qui s'appelle Trajectoire et c'est comme ça que vous rencontrez un certain Tanino Liberator qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission il y a quelques mois. Alors Liberator, c'est pas tout à fait l'auteur jeunesse hein, pour le coup, c'est pas tout à fait son style. Il vous a filé un petit coup de main quand même.
Ah oui. Tanino a été formidable. Je dois dire que on s'est pratiquement jamais revu depuis, mais je lui dois une très fière chandelle. C'est le premier en fait me recevant pour une interview, puisque j'étais venu là pour l'interviewer, qui m'a dit, il avait vu certains de mes dessins et il m'a dit, mais en fait je t'ai pris rendez-vous cet après-midi chez un éditeur. On va y aller ensemble et
direct comme ça.
Voilà, et deux heures après, j'en suis sorti avec un contrat en poche. Donc, c'était totalement inattendu, cette espèce de Noël. Et je dois ça à Tanino, mais je dois beaucoup de choses à l'Italie. Ensuite, j'ai épousé une Italienne. Donc, c'est un pays cher à mon cœur, et une langue aussi. Mais ça a été formidable, cette espèce de générosité. C'est vrai que, faut dire ce qui est, le milieu de la bande dessinée est un milieu où on s'épaule assez volontiers. Il y a peut-être une concurrence moins aiguë et moins sanglante qu'elle ne peut avoir lieu. C'est ce que je sais par oui dire dans d'autres milieux.
Oh, je veux pas du tout de qui vous voulez parler. Non,
mais le fait est que là, il m'a rendu un fier service et je l'en suis encore très reconnaissant. Grazie Tanino. Semi senti, ti ringrazio ancora.
Et puis vous entamez, Emmanuel Guibert, une carrière avec Brune. Alors Brune, c'est une œuvre qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait par la suite. C'est une sorte d'objet dessiné non identifié, ça, pour Emmanuel Guibert.
Un objet déni.
Voilà.
Écoutez, oui, alors c'était donc mon premier livre. C'est quand je suis sorti ce soir-là de ce rendez-vous chez Albin Michel, c'était lesté d'un contrat et d'un sujet, pour ainsi dire, qui était celui-là.
Donc la montée du nazisme.
Voilà. C'est un sujet qu'on m'avait affecté. Je devais avoir un scénariste que finalement je n'ai pas eu. Donc j'ai fait mes premiers voyages documentaires, si j'ose dire. Je suis allé à Berlin à l'époque encore enserré par son mur. Ça a d'ailleurs été une expérience très marquante pour moi que de découvrir cette ville en 1985. à une époque où on était à milieu de penser que cette Europe scindée en deux un jour se réunirait. Et faut pas oublier ça. J'ai d'ailleurs l'intention dans les années qui viennent d'en parler de cette Europe-là, parce que je l'ai vue de mes yeux et qu'elle m'a marqué. Et donc je me suis lancé dans l'élaboration de ce livre en pensant que j'y passerais un an, ce qui me paraissait déjà une distance considérable. Et en fait, je n'ai pu mettre le mot fin à la fin de la dernière case que 6 ou 7 ans après, après une espèce de traversée incroyable d'un travail titanesque que je me suis infligé à moi-même. Mais c'est un âge où on s'inflige assez volontiers des choses. Si les gens vous mettent pas en tôle, on s'y met tout seul.
Et donc là, on était vraiment dans un album très réaliste.
Ouais. Peut-être pas tant que ça en même temps. Dans sa facture, oui, en effet, j'avais décidé de m'apprendre à dessiner tout seul. Donc, chaque fois que deux voies s'ouvraient à moi, je choisissais toujours la plus difficile, raison pour laquelle ça m'a pris tant de temps. Mais je regrette pas. Comme toute expérience, ça m'a retiré à peu près autant que ça m'a apporté. Mais ça m'a apporté beaucoup. Et la première chose que j'en ai retirée, c'était qu'il fallait pas continuer comme ça.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas
Patrick Fiori et Florent Pagny dans VMDN sur RFI avec Emmanuel Guibert, Grand Prix d'Angoulême 2020, qui fête avec Marc Boutavant les 20 ans d'Ariol, leur personnage jeunesse, et qui expose aussi à Paris en ce moment, à l'Académie des Beaux-Arts Quai de Conti, jusqu'à dimanche prochain. Ça s'appelle Biographie dessinée. Et notre reporter Fanny Blechner est allée y faire un tour, et même plus qu'un tour.
Cette exposition, elle s'intéresse aux œuvres biographiques d'Emmanuel Guibert, un genre qu'il exploite à sa façon, nous explique Philippe Guelmetti, le commissaire.
Il y a une tendance dans la bande dessinée, depuis en gros le début des années 70, à l'autobiographie. Ça se tympan. La biographie, c'est encore autre chose. Il existe aujourd'hui, chez plein d'éditeurs, des biographies de grandes figures, de l'histoire, de la culture. Bon, c'est encore autre chose. Ce que fait Emmanuel, c'est qu'il fait des biographies sur des gens qu'il a connus, sur des gens qui ont fait partie de sa vie. Comme il le dit, il ne ferait jamais de biographie de gens connus. C'est son rapport avec la personne qui fait qu'il a envie de raconter la vie de la personne.
Et c'est ainsi qu'il va s'intéresser de près à Alan Ingram Cope, un Américain, ancien GI, qu'il croise un jour sur l'île de Ré et avec qui il va se lier d'amitié. Il décide alors de retracer sa vie.
Il a commencé à dessiner en 1996, ça fait donc déjà 24 ans. Il y a encore 2 livres qu'il voudrait réaliser. Il pense que ces 2 livres vont lui prendre probablement pas loin d'une dizaine d'années. Donc il aura passé quasiment 35 ans à raconter la vie de Monsieur Personne.
Ont déjà été publiés La guerre d'Alan, L'enfance d'Alan, ainsi que Martha et Alan. L'exposition présente un certain nombre de planches originales avec la particularité de pouvoir se plonger dans la lecture.
On a pensé qu'il y aurait beaucoup de gens viendraient sans trop savoir ce que c'est, sans être familier avec ce qu'ils vont découvrir finalement. C'est-à-dire même des fois en étant totalement ignorant. Donc on a pris une position un peu didactique. Par exemple, de dire on ne monte pas des planches de bande dessinée pour la beauté du dessin, la continuité de l'histoire, mais on prend des séquences entières pour que les gens puissent lire ça. Et on en apprend beaucoup plus comme ça que de regarder des images une par une.
Ainsi, dans la deuxième partie de l'exposition consacrée à Didier Lefèvre, photoreporter qui a également été voisin puis ami d'Emmanuel Guibert, il est possible de lire une longue séquence sur un pan de mur et de revivre un moment particulièrement fort de la vie de cet homme. Le photographe, c'est le nom de cette BD.
Et on a en parallèle de ça les carnets de Didier Lefèvre dans lesquels on voit les photographies qui ont servi et qui illustrent la séquence, ainsi que d'autres éléments, d'autres photographies, ainsi que des vêtements, ainsi que son appareil photo, et qui personnalise complètement ce photographe, qui est aussi finalement un personnage de bande dessinée.
Un personnage de bande dessinée peut-être, mais finalement très incarné à la manière de l'exposition d'Emmanuel Guibert.
Il a tenu à parler lui-même. Souvent, dans les cartels, il dit « vous allez voir, je vous montre ». Il se met à la première personne, ce qui est assez inhabituel, effectivement.
Assez inhabituel aussi, ces techniques de dessin sur des feuilles plastiques afin d'en colorer les deux côtés.
Dessiner à partir avec une nouvelle technique sur un nouveau support va lui permettre d'éviter de s'endormir, entre guillemets. C'est-à-dire d'être tout le temps attentif à ce qu'il fait, attentif à son dessin, attentif à son geste, parce que c'est devenu un challenge à cause de l'utilisation de matériaux qui, à l'origine, sont certes fonctionnent pour le dessin animé, mais a priori pas du tout pour la bande dessinée. Je pense que ça doit être la seule bande dessinée au monde qui a été faite sur un matériau comme ça.
Une rareté donc à découvrir à Paris, à l'Académie des Beaux-Arts, pavillon Comtesse de Caen. C'est jusqu'au dimanche 18 octobre.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN. Alors beaucoup de choses, hein, Emmanuel Guibert. D'abord ce constat, vous êtes donc le premier auteur de BD qui expose à l'Académie des Beaux-Arts. Est-ce que pour vous c'est le signe que ça y est, la bande dessinée est devenue un art à part entière, en tout cas est considérée enfin comme telle?
Je ne sais pas, il ne faut pas méconnaître le fait qu'un jour un ministre a décroché son téléphone, a appelé un certain nombre d'institutions et a dit « ce sera l'année de la bande dessinée ». C'est un merveilleux fait du prince, c'est quelqu'un qui a décidé ça.
Oui,
mais... et du coup, il a mis en demeure, si j'ose dire, un certain nombre.
Ça, c'était Franck Riester, effectivement.
Un certain nombre d'institutions. Mais.
Il y a deux ans, mais voilà. C'est peut-être aussi le signe que les choses ont évolué.
Certainement, mais il faut dire par ailleurs, après avoir dit cela, que cette balle a été remarquablement reprise au bon par des institutions dont on se rend compte quand on y entre, qu'elles sont peuplées de lecteurs. C'est-à-dire que, aussi bien au Collège de France qu'à l'Académie, on a des lecteurs. Et je n'étais pas censé le savoir, pour la plupart d'entre eux, et c'est évidemment un délice de découvrir que des gens que par ailleurs on peut évidemment admirer pour leurs propres activités, vous connaissent et vous lisent. Donc on se sent du coup en amitié, agréablement reçu, et ça donne d'autant plus envie évidemment de se décarcasser pour faire en sorte que l'exposition se tienne, qu'elle soit, comme le soulignait mon grand copain Philippe Delmetti qui en est le commissaire, qu'elle soit écrite, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment conçue, si j'ose dire, comme un livre.
Voilà, elle raconte elle aussi une histoire.
Qu'elle raconte elle aussi, en l'occurrence, deux histoires, et que du coup le visiteur il soit vraiment accueilli, pris par la main, avec tout ce que ça implique de d'explication, de volonté de l'enchanter, si j'ose dire, c'est-à-dire de lui montrer des choses joliment présentées, mais en même temps qu'il en ressorte avec la sensation peut-être d'avoir appris des choses sur l'histoire du XXe siècle, sur l'histoire contemporaine.
Alors cette appétence pour raconter le destin des autres, et pas forcément des plus connus, hein, comme l'expliquait effectivement le commissaire d'exposition, mais des gens que vous connaissez, que vous avez appris à connaître, hein, donc vos amis, ce voisin photographe de presse Didier Lefèvre, et puis Alan Ingram-Kopp, hein, cet ancien GI rencontré, comme le rappelait Fanny, sur l'île de Ré, dans l'ouest de la France. À quel moment vous vous êtes dit que ces deux personnages feraient de formidables héros de bande dessinée?
Dès notre rencontre, je pense là en particulier à Alan, parce que chacune de ces rencontres est unique. Donc je n'applique pas une sorte de règle universelle à mes amis en leur disant « tiens, faisons des bouquins ».
Toi, tu rentres dans une case, non?
Voilà. Non, je ça peut prendre un certain temps. Didier, je l'ai connu, j'avais 14 ans. J'en avais 36 ou 7 quand on s'est mis à... 36 ou 7 quand on s'est mis à travailler ensemble. Donc, Alan, c'est très différent. Alan, j'avais 30 ans quand je l'ai rencontré. Il en avait 69. Je l'ai rencontré en lui demandant mon chemin dans la rue. Et deux jours après, en se baladant le long de la mer sur une plage sur laquelle on venait de se baigner, il m'a raconté quelques anecdotes de sa guerre et je lui ai proposé qu'on fasse des livres.
Mais ça commence par des conversations comme ça à bâton rompu. Vous n'avez pas tout de suite l'idée d'interviewer pour pouvoir en faire une histoire.
Non, non. Il faut ressentir quelque chose de très très fort. Voilà. Il faut une mise à feu considérable. Cette mise à feu considérable, c'est à la fois ce qui s'appelle, peut-être sans qu'on le sache encore, l'amitié, c'est-à-dire une sorte d'attirance très forte pour une personne, le désir de rester avec elle. Voilà. Ne pas s'en aller. Écouter cette voix. Demander toujours plus. Ou écouter toujours plus, parce qu'au fond, ce sont des gens avec auxquels j'ai eu peu à demander. Ils se sont contentés, en fait, constatant que je leur ouvrais mes oreilles, de parler. Et je trouve très bien, d'ailleurs, de ne pas avoir à poser de questions. De tout simplement manifester sa curiosité en restant là. Et rester là, c'est-à-dire affecter du temps aux gens, comme on le fait aujourd'hui. Je trouve très agréable d'être reçu, et je vous en remercie, dans une émission où on a le temps de parler. Parce que je crois qu'un des principaux atouts de l'amitié et donc de la confidence, c'est de pas regarder la montre. C'est vraiment de se donner l'un à l'autre, de consacrer le temps nécessaire, de prendre un train pour rejoindre la personne chaque fois que nécessaire, d'être ensemble jusqu'au bout sans se quitter. Ce sont deux hommes que j'ai tenus dans mes bras au moment de leur mort. Donc, vraiment aller loin, aller le plus loin possible. Voilà. Aller là où la relation humaine peut nous mener, c'est-à-dire vers un maximum de complicité et de compréhension.
Mais après, il y a aussi le désir de partager avec le lecteur, de partager cette relation et tous les mots que vous avez échangés.
Alors, c'est pas après, comme je me prénomme Emmanuel, ça va en même temps, si j'ose dire. Et je pense que c'est dès l'abord de ces amis, quand on entre vraiment dans le vif des souvenirs, dans le vif de la conversation, que je n'ai pas à chercher puisqu'il est là, mais je me dis intérieurement, utilisons en fait cet alibi d'avoir à faire des livres pour rester d'autant plus ensemble. On sait bien que la vie est ainsi faite, qu'elle a tendance à nous séparer, quand bien même on est proche, et se donner des mobiles pour se retrouver souvent, comme celui par exemple d'avoir à s'enregistrer pour raconter avec un maximum de luxe de détails toute une vie ou une partie d'une vie, c'est une très bonne raison pour, semaine après semaine, se retrouver autour d'une table, se faire frire des saucisses, brancher un magnétophone, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, et enregistrer, et puis ensuite, évidemment, décrypter tout ça, en tirer des pages, en tirer des livres, au grand bonheur, je dois dire, des principaux intéressés, parce que tout ça, ça s'est fait pour et avec ces deux hommes, et dans une espèce de joie partagée de faire ensemble quelque chose qui nous soude, et dont on a la certitude que c'est porteur d'intérêt. Je pense qu'on ne peut pas se lancer dans des livres de longue haleine sans avoir la folie de penser que ça va intéresser d'autres gens. Et pour ça, il faut l'avoir gorgé de toutes sortes d'informations. Et je me suis dit qu'un homme qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale comme GI et un autre qui était un grand photoreporter et qui a accompagné nombre de missions de Médecins sans frontières dans des années, j'allais dire mouvementées, elles le sont toutes malheureusement, mais ça ne peut qu'intéresser.
La guitare de Philippe Mouratoglou, le violoncelle de Matt Turner, la clarinette de Jean-Marc Foltz et les dessins d'Emmanuel Guibert, car Alan, donc votre ami Alan, a ses albums, il a sa musique aussi, hein, le disque est sorti à la fin du mois d'août. Vous avez créé avec ces musiciens-là en quelque sorte la bande-son de l'album de la vie d'Alan ?
Ben oui, c'est formidable. Il faut rajouter à la liste que vous avez donnée deux pianistes qui sont Stéphane Oliva et Bill Carruthers. Et Philippe Guelmetti, qu'on entendait tout à l'heure s'exprimer sur l'exposition, qui est un vieux camarade et avec lequel j'ai le bonheur de collaborer beaucoup, a pris cette décision qui s'est révélé au fond un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait de ma vie, quoi. C'est-à-dire proposer à trois jazzmen, dont une woman qu'on vient d'entendre, américain, et à trois jazzmen français, de bien vouloir converger du côté de Pernes-les-Fontaines, aux abords de Carpentras, là où Gérard de Harrault, ingénieur du son remarquable, a un studio qui s'appelle le studio La Buissonne et qui draine toute la fine fleur du jazz mondial. Et là, pendant 5 jours, j'ai passé un moment de rêve à écouter mon vieux copain, mort depuis 20 ans, se transformer en musique. Et ces gens qui sont tous de grands virtuoses ont composé donc des suites musicales et puis également bien sûr improvisé puisque ce sont des musiciens de jazz, mais pendant ces 5 jours, et j'étais au paradis parce que il pouvait rien se passer de plus juste pour accompagner la mémoire d'Alan que de le transformer en musique.
Il y a de la musique et puis il y a aussi les dessins qui continuent d'accompagner sa mémoire. On va commenter, si vous voulez bien, Emmanuel Guibert, quelques planches. Par exemple, la couverture de la guerre d'Alan. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous raconter comment vous avez composé justement l'image de cette couverture?
Alors, à l'origine, La Guerre d'Alan était une trilogie, donc elle a eu 3 couvertures successives, et puis un jour, mon éditeur m'a proposé de rassembler ces 3 livres en un seul, et donc il fallait créer une couverture qui synthétise l'ensemble. Comment on crée une couverture? C'est très variable. Des fois, elle sort spontanément du crayon, et là, on a de la chance. D'autres fois, il faut un peu la chercher. Je me rappelle que pour les besoins de celle-ci, je me suis contenté de relire mon propre livre, parce que au fond c'est souvent comme ça que ça marche, c'est dans caché dans l'un ou l'autre épisode qu'on a raconté dans le livre que se trouve cette couverture. En l'occurrence, on est en Normandie, ou plus exactement à la limite entre la Normandie et la Picardie, on est dans le pays de Bray, et Alan vient de débarquer, donc on est en février et début mars 1945. L'armée américaine a égaré leurs véhicules et leurs armes, ce qui est un peu embêtant pour une armée en campagne, donc ils sont cantonnés là dans le plus grand désœuvrement, et Alan, la nuit, met une botte dans son couteau, bien qu'il ait plus rien à craindre puisqu'il n'y a pas d'Allemands dans les parages, mais il traverse des forêts et il va voir un ami qui est cantonné à quelques vallées de là. Et donc j'ai dessiné ce moment-là. Pourquoi j'ai choisi? Parce que Alan était quelqu'un qui aimait beaucoup les arbres. C'est une confidence qu'on s'est faite dès le premier soir où on s'est rencontrés. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup dessiné d'arbres de son vivant. Je lui en ai offert considérablement. Et depuis sa mort, chaque fois que je peux le dessiner entouré d'arbres, je le fais. Je vois que vous manipulez.
Bah oui, parce qu'il y a aussi un autre dessin, hein, qui montre effectivement une planche en contre-plongée, hein, donc avec Alan John qui monte, hein, à l'assaut, si j'ose dire, ce qui est normal pour un futur GI, à l'assaut de cet arbre. Et puis on a un autre où il est en compagnie de sa copine Martha. Oui. Il y a un album qui s'appelle Alan et Martha. Et là encore, l'arbre, c'est pas un décor, quoi. C'est un personnage du dessin.
Ah oui, oui. Ben, l'arbre, si on veut bien lui prêter attention, c'est un personnage dans nos vies. Alan disait, l'homme n'est qu'un épisode dans l'histoire de la végétation. Et c'est vrai qu'on entretient, si on le veut bien. Alors, il y a des gens qui se font jardiniers ou exploitants agricoles, mais le fait est qu'on entretient avec la végétation, avec le végétal, une relation qui est un partenariat et qui est extrêmement touchante si on veut bien regarder les arbres, parce que qu'est-ce que c'est qu'un arbre au fond? C'est une biographie qu'on peut voir de A à Z devant nous, qui exprime ses élans, ses blessures, pour peu qu'ils aient perdu une ou deux branches, leurs erreurs, ils sont partis dans un sens, puis ils savent que c'était pas le sens de la lumière, donc ils font un effort considérable pour repartir dans un autre. Tout ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde un arbre. C'est beau, c'est déchirant parfois. Bon, c'est qu'on vit dans le bois aussi, que le bois se taille. J'étais il y a quelques semaines sur le parvis de Notre-Dame, j'ai eu le bonheur d'assister à une performance extraordinaire des charpentiers sans frontières de mon ami François Calame, qui était là pour faire une démonstration de charpente et de taille à la hache, d'écarissage de fût de chêne. Donc le bois c'est nous, si j'ose dire. On sait qu'on est fait d'un certain bois, c'est ce qu'on dit. Mmh. Donc chaque fois que j'ai l'occasion de représenter des arbres dans mes livres, je le fais.
Alors, et puis une dernière planche, une couverture, ça c'est quasiment une icône, hein, cette couverture, la couverture du premier tome du Photographe, où on voit effectivement personnage.
C'est aussi la couverture.
Prendre en photo, en quelque sorte, le lecteur.
Exactement. C'est aussi la couverture du volume intégral.
Absolument. Disponible chez Air Libre.
Voilà. Donc, on y voit Didier, en effet, avec son Leica, en train de nous fusiller. Et, à bout portant. Et donc, oui, ça me paraissait évident que ce livre que je souhaitais dédier à son travail porte alors son nom en couverture, puisqu'il en est évidemment un des auteurs, mais aussi son état, celui de photographe. Donc le livre s'appelle tout simplement Le Photographe, et comme je n'ai pas cherché midi à 14h, je l'ai montré en pleine action sur la couverture. Mais c'est une couverture qui dit autre chose, c'est une couverture aussi qui dit sa fusion dans les milieux dans lesquels il intervenait, puisqu'en l'occurrence il porte le pacol afghan, ce fameux bonnet qu'on connaît, popularisé chez nous par le commandant Massoud, et puis un gilet qu'il avait fait fabriquer à Peshawar et qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition. Donc ça dit l'investissement de cet homme qui, avant de partir en voyage, prenait la peine d'apprendre des rudiments de la langue, des rudiments des mœurs du pays. Il faut dire que c'était une époque où les reporters photographes avaient du temps, généralement. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette mission dure 4 mois. C'est rare aujourd'hui qu'un reporter photographe, en tout cas sur les maigres deniers de la presse, puisse se payer le luxe de passer 4 mois en reportage. Donc c'était des conditions d'immersion complète au cours desquelles Didier se faisait son métier en ne se ménageant jamais, parce que c'était vraiment un moine soldat de la photo. C'était quelqu'un qui était prêt à aller partout et dans l'idée d'en ramener un témoignage.
Un dessinateur, c'est comme un photographe, Emmanuel Guibert, c'est un œil d'abord. Avant le crayon.
On en parlait pas mal, Didier. Moi, ça nous intéressait d'essayer de comparer les mérites de nos activités respectives et de voir ce qu'on avait en commun et ce qu'on avait en distance. Je pense que je sais pas trop ce que veut dire le fait d'être un œil. Je sais que c'est ce qu'on disait de Claude Monet. On disait ce n'est qu'un œil, mais quel œil. Je trouve ça un peu réducteur. Le fait est que derrière l'œil, il y a la main, il y a la sensibilité, il y a tout ce qui fait un artiste. Donc il est évident que Didier et moi, on avait tous les deux la passion de regarder et la passion de témoigner, certainement. Donc ça nous rassemblait. Il y a, dans la photographie comme dans le dessin, des effets de cadrage bien connus, de matériaux, etc., qui peuvent aussi rapporter nos modes d'expression, les rapprocher. Par contre, il est évident que si Didier arrivait à prendre au vol une photographie, un dessinateur d'observation comme je le suis, en règle générale, est obligé de s'asseoir, ou même s'il reste debout, de consacrer au moins 10 minutes, un quart d'heure, parfois plus, à un sujet, à un motif. Donc ça nous différencie un peu.
Alors l'observation, justement, vous en parlez dans un autre livre qui vient de sortir, toujours chez Air Libre, intitulé « Légende », sous-titré « Dessiné dans les musées ». Vous racontez justement une sorte de déambulation dans différents musées au contact des œuvres de tableaux, de sculptures, de différents artistes. Vous aimez les maisons-musées aussi, vous aimez entrer dans non seulement dans l'œuvre de l'artiste, mais aussi dans sa vie, dans son atelier. En fait, vous passez votre vie à observer les œuvres des autres, Emmanuel Guibert, pour vous en nourrir.
Oui, une vie de dessinateur d'observation, c'est une vie qui a un adjuvant extraordinaire, ce qui est le dessin, pour se botter régulièrement les fesses et se dessiller. On a tendance, les yeux sont ainsi faits qu'ils sont munis de paupières. On peut pas se boucher les oreilles sans le concours de nos doigts. Par contre, on peut décider de fermer les yeux. Et parfois même, quand on le décide pas, c'est la fatigue qui le décide pour nous, c'est l'usure, et c'est bien dans ces cas-là d'avoir le dessin, parce que le dessin, c'est un combat permanent contre l'usure, contre le train-train, contre la cécité, et c'est une volonté constante d'essayer de tirer de l'environnement des formes, des leçons, nourrir sa mémoire des formes, tirer des traits entre ce qu'on voit et ce qu'on a vu, parce que nourrir sa mémoire des formes, c'est se souvenir de ce qu'on a vu, donc c'est le rapporter à ce qu'on est en train de voir. Et comme on sait que le cerveau fonctionne comme ça, en créant sans arrêt des relations entre les choses ou les êtres, il y a dans le dessin quelque chose d'extrêmement naturel, et qui est, je suis d'ailleurs, j'aime pas être prosélyte dans ma vie et monter sur des tonneaux pour dire aux gens ce qu'ils devraient faire, mais je trouve que un peu de dessin dans l'existence, ça fait du bien, et je trouve qu'on devrait tous essayer, y compris celles et ceux qui ont cessé de s'y consacrer pendant des années, parce que le dessin fait du bien.
Eh bien, merci de nous avoir fait du bien aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Emmanuel Guibert, merci infiniment. C'était trop cool de vous avoir dans cette émission. Légende dessinée dans les musées, c'est donc chez Air Libre et puis chez Bayard, dans la collection BD Kids, les deux derniers Ariol, bravo à nos gagnants du jeu d'hier, Ibrahim Soré de Ouagadougou au Burkina Faso et Flara Yombo de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Ils recevront tous les deux le roman de Miguel Bonnefoy, Héritage, paru aux éditions Rivage. Dans une poignée de secondes, l'actualité sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles. Aïe.